chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence. C'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio avec Alain Jeanne.
Bonsoir à tous, comme chaque lundi désormais à 19h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chute, on écoute la télé sur Brenige FM.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de votre nouvelle émission de ce lundi 6 mai, c'est deux grosses parties qui nous attendent dans cette émission avec, pour commencer, eh bien, les crevettes pailletées. Le film sort au cinéma mercredi et c'est l'événement de la semaine puisque nous allons recevoir dans cette émission une bonne partie de l'équipe du film. Nous aurons Cédric Le Gallo et Michael Abitboul qui vont nous rejoindre dans un instant. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir quasiment tous les comédiens, Nicolas Gobbe, Alban Lenoir, Romain Brault, Romain Lancry et surtout aussi le deuxième réalisateur Maxime Govard. Toute l'équipe des crevettes pailletées, une exclusivité régionale pour vous. Dans Chute, on écoute la télé. Deuxième partie de cette émission consacrée au film L'Enfant que je n'attendais pas. Il sera diffusé mercredi sur France 2. Eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir le producteur Jean-Manuel Dupont, mais aussi le réalisateur Bruno Garcia et les comédiens Alix Poisson, Bruno Solo et Clarisse Lonibot qui seront avec nous. Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer pour ce téléfilm consacré au déni de grossesse. On reviendra évidemment sur la dernière partie de cette émission sur ce sujet qu'on va largement évoquer. Mais juste avant d'accueillir l'équipe des crevettes, on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, comme d'habitude, par les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et on démarre avec lundi dernier et Esprit criminel avec 4 33 000 téléspectateurs. TF1 est en tête des audiences. Les petits mouchoirs sur M6 font recette. 2 738 000 téléspectateurs. C'est Obsession sur France 2, la nouvelle série. 2 220 000 seulement. Et Le Monde de Jamy avec 1 665 000 téléspectateurs. C'est un tout petit score. Et puis mardi, il y avait le capitaine Marlowe sur France 3 qui écrase la concurrence. Pour une rediffusion, c'est 6 353 000 téléspectateurs et 28,6% de part de marché. Du coup, L'Arme fatale sur TF1 souffre beaucoup avec 3 390 000 téléspectateurs seulement et moins de 15% de part de marché. C'est un flop également pour Tout le monde joue au vétérinaire, sur France 2, 7,7% de part de marché, 1 549 000 seulement. Et puis Together, tous avec moi, on attendait le résultat pour M6. Eh bien, c'est un flop retentissant, 1 383 000 téléspectateurs seulement pour 6,8% du public. On va passer à mercredi avec Peur sur la base. Avec 4 115 000 téléspectateurs, le téléfilm de France 2 arrive en tête avec ses 18,7% de part de marché. Grey's Anatomy est loin derrière avec 3 464 000 téléspectateurs. Top Chef également 2 336 000 avec 12,3% de part de marché. C'est un score correct dans la moyenne. Jeudi, il y avait Section de recherche sur TF1, 4 328 000 téléspectateurs, 18,7% du public. Laissez-vous guider sur France 2, 2 531 000 téléspectateurs. Au coude à coude avec M6, avec 911, la série, 10,8% de part de marché, 2 510 000. Et puis c'est toujours le match le vendredi qui oppose Koh-Lanta à Candice Renoir, bien évidemment. Et puis The Voice au téléfilm de France 3, le samedi. Allez, tout de suite, on passe donc à notre spécial, les crevettes pailletées dans Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre coup de cœur ciné de cette semaine. Et quel beau coup de cœur, puisque je vous garantis que pour ce 8 mai, profitez de ce jour férié pour aller voir Les Crevettes Pailletées au cinéma. Ça sort là, mercredi. Et on va faire une grande spéciale. Alors, on va démarrer cette spéciale avec Cédric Le Gallo, co-réalisateur de ce beau film. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Et Michael Abitboul qui est avec nous, qui joue le rôle de Cédric. Salut Michael.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On accueillera aussi Nicolas Gobbe, Alban Lenoir dans quelques minutes. On aura le plaisir aussi de recevoir ton co-réalisateur Maxime Govard, ainsi que les deux Romains, Romain Brault et Romain Lancry également, qui seront avec nous. On va consacrer la moitié d'émission carrément. Mais on va déjà planter le décor avec toi Cédric, si tu veux bien, puisque c'est une vraie histoire, c'est une vraie équipe, c'est Crevettes Pailletées, une équipe de water polo dont tu fais partie depuis 7 ans.
C'est ça, je les ai rejoints il y a 7 ans sans trop attendre quoi que ce soit d'ailleurs. Et en fait, ce sont devenus mes meilleurs amis. Et c'est une équipe de water polo gay. C'est important de le préciser puisque moi, qui suis gay, j'avais pas forcément l'impression que c'était important d'avoir sa bande gay. J'avais déjà plein d'amis hétéros, super. Et en fait, on a traversé l'Europe de tournoi en tournoi pendant 7 ans maintenant. On a participé au Gay Games l'été dernier qui était à Paris. Et en fait, ce film, c'est une déclaration d'amour à cette équipe-là qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que c'est un groupe où on peut être qui on veut. C'est-à-dire si on veut mettre des talons, une perruque, eh ben on peut le faire, on s'autorise tout. Et ce qui rend la vie plus belle, moins lourde, c'est vraiment une valeur que défend le film et qu'on défend nous dans la vraie vie. C'est cette légèreté assumée pour alléger un peu notre sac à dos, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses tristes qui se passent dans la vie. Mais bon, avec un autre prisme qui est celui de la légèreté, on peut la rendre beaucoup plus facile. Donc voilà, cette volonté de porter à l'écran cet état d'esprit-là.
Alors l'histoire des départs, ça démarre comment ? Raconte-nous.
À la base, je suis journaliste, et je faisais du théâtre à côté, donc j'avais quand même envie d'aller vers la fiction. J'avais réalisé une petite série qui s'appelle Scène de culte.
Pour laquelle on t'avait reçu à La Rochelle d'ailleurs.
Exactement, et c'était très sympa. Et c'est une série que j'avais écrite, dans laquelle je joue, que je réalisais, et je me suis dit, mais en fait c'est exactement ça que je veux faire. C'est vrai qu'on n'écrit jamais aussi bien que sur notre propre univers, et donc le sujet s'est imposé de lui-même. Et après, il fallait réunir autour de nous, puisqu'il y a aussi Maxime qui est mon co-réalisateur, avec qui j'ai écrit aussi le film. Et puis on est très différents avec Maxime, c'est-à-dire que moi j'arrivais avec mon équipe, mon univers, etc. Mes envies de raconter cette légèreté assumée. Et Maxime, lui, a été un peu mon professeur de cinéma, puisque j'avais jamais écrit de long métrage. Et voilà, il m'a vachement structuré pour ce film, Les Crevettes, et puis même plus tard au tournage. Maxime est quelqu'un de très structuré. C'est un peu Mathias, le coach des crevettes, qui est très rigide, et moi, je suis les crevettes. Donc c'est exactement le même binôme qui s'est créé sur le plateau de tournage. Et puis, il fallait s'entourer d'acteurs qui puissent porter ce film. Et c'était pas évident, on a vu énormément de monde.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir Nicolas, alors ?
Alors Nicolas, alors déjà trouver un acteur musclé, parce que Nicolas est musclé puisqu'il joue un champion olympique de natation, c'est déjà très compliqué en France.
Ça va leur faire plaisir.
Mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est rien que ça. Et puis Nico est vraiment un vrai sportif dans la vie en plus. Donc c'est quelqu'un qui est très physique et il y a des scènes très physiques puisqu'il doit jouer un champion olympique de natation. Donc il faut beaucoup nager, etc. Et puis il faut être physiquement crédible. Et il a ce truc dans la vie, Nico, quand on a vu ses essais, on s'est dit, non, mais c'est vraiment le personnage, il faut qu'on rencontre cette personne. On l'a rencontré. Et quand il passait les essais, c'est un excellent comédien, Nicolas Gobbe. Dès qu'il ratait une réplique, enfin, selon lui, ratait, nous, ça nous allait très bien, il donnait des coups de poing dans le mur en disant, merde, merde, merde. Bon. Et on s'est dit, en fait, c'est Mathias. C'est-à-dire le mec qui est dans la souffrance, la violence, l'envie de mettre la barre toujours plus haut, etc. Et il est comme ça dans la vie. Sauf qu'il n'est pas homophobe. Et au contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, d'extrêmement tolérant. Comme le casting est à moitié gay, à moitié hétéro, Nicolas Gobbe plaît beaucoup aux gays et c'est le premier à s'en amuser.
Michael, le rôle de Cédric. Alors c'est certainement celui des crevettes roses qui a déjà une vie de famille, hein, avec des enfants adoptés, avec son compagnon, voilà, qui a une vie déjà bien établie et qui a des difficultés à conjuguer cette vie de famille et ses crevettes pailletées.
Bah oui, mais c'est drôle parce que moi j'ai l'impression à un moment de ma vie d'avoir eu les mêmes difficultés. J'ai eu un enfant et c'était absolument génial. Mais il y a quelque chose. C'est pas qu'on rompt avec son ancienne vie. Et là, l'histoire, elle raconte ça aussi. Ils se sont séparés pendant 2 ans et Jean décide de reformer cette équipe pour aller à la poursuite de son rêve. Et chacun ont évolué. Effectivement, lui a une famille, c'est rangé, mais il y a toujours. Et c'est là aussi où moi j'essaie de travailler sur la gourmandise, sur le plaisir. Il y a son esprit d'enfant qui le pousse. Il y a toujours cette envie d'être avec ses copains. Et on la comprend, qu'on soit gay ou hétéro. Une famille d'amis, c'est une famille extrêmement importante. Donc sa dualité, son tiraillement, il aime profondément sa famille. Et il est dans son évolution de vie. Mais il y a toujours aussi cet appel de la fête, de les sirènes, et c'est vrai. Et là-dessus, il a fallu naviguer, mais aussi, on va tous chercher chez nous aussi des couleurs. J'ai essayé de m'en amuser, de naviguer entre les deux.
Ce qui était très important, c'est qu'on y croit à cette bande de potes. Et là, vraiment, je rends hommage aux comédiens, parce qu'on ne le dit jamais assez à quel point on est content de leur travail, surtout sur ce tournage-là, parce que c'était tellement difficile de tourner ces séquences, notamment de water polo, qui sont très physiques, même pour communiquer entre nous, c'est très dur. Et c'est vrai qu'ils ont fait un travail remarquable, parce qu'il fallait qu'on y croit à cette bande. Il fallait que cette complicité soit visible à l'écran. Et ça, je trouve que c'est très réussi. Je voudrais vraiment rendre hommage à leur travail. Ce qui est très difficile sur une comédie gay, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a voulu raconter, c'est d'être sur le fil en permanence, c'est-à-dire que on pourrait croire que c'est la caricature, mais non, en fait, c'est juste des personnages hauts en couleur
qui tous leurs différences et des différents caractères.
Absolument, il faut pas confondre caricature et personnages hauts en couleur. Ils sont hauts en couleur comme les personnages de ma vraie équipe sont très hauts en couleur, peut-être parfois certains même plus que les crevettes du film. Et on est en permanence sur le fil sur ce film. C'était vraiment le défi et les comédiens ont réussi ce travail parce qu'ils sont très fins dans leur jeu, ce travail à être tout le temps juste.
on l'a réussi avec vous, parce que ce qui a été intéressant sur ce film, c'est pas un film figé d'un bout à l'autre. On a eu une matière pour travailler, et jusqu'au dernier jour, jusqu'à cette cérémonie des Gay Games, ça a été en perpétuelle évolution, chez eux et chez nous. C'est-à-dire, on a proposé, vous avez toujours été à l'écoute, parfois en refusant, et heureusement que vous refusez certaines choses, sinon...
C'est la foire.
Ouais, c'est la foire, c'est pas la carte. Mais on a travaillé quand même en intelligence, en essayant de s'apprivoiser tous, parce qu'on vient tous d'horizons différents, de formations différentes, d'expériences. Et c'est d'ailleurs pas les comédiens qui avaient moins d'expérience. Tu vois, c'était aussi passionnant. Je crois qu'on était tous au même endroit de recherche. Qu'on ait beaucoup travaillé ou moins, je crois que ça ne s'est vraiment jamais posé. On était dans une recherche, on remettait en question des choses, parce que ce fil dont tu parles, c'était aussi, on frôlait le précipice à certains endroits et on avait peur et on a le nez dedans, donc on ne peut pas savoir sur le moment. Et ça a été le travail d'échange et ça a été perpétuel d'un bout à l'autre. C'est un travail, c'est un pari et c'est une expérience qui a été évolutive. Et ça, c'est passionnant sur un projet. C'est pas toujours simple parce qu'on n'est pas toujours sûr d'être dans le droit chemin. Mais en tout cas, on s'est tous aidés pour essayer de rattraper quand on partait un peu trop à gauche ou un peu trop à droite. On s'est tous aidés là-dessus. Ça, c'était assez chouette.
Dernière question avant d'accueillir Nicolas Gomme et Alban Lenoir dans un instant. Ça a vraiment été tourné en Croatie?
Absolument. On a tourné avec des équipes croates. Alors, ce qui est drôle, c'est que on s'est dit, bon, bah, génial. En Croatie, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On n'est plus en France. Donc, toutes les règles vont sauter. Ça va être la liberté totale. Et en fait, pas du tout. Puisqu'en fait, les équipes croates ont l'habitude de tourner avec des Américains. Notamment Game of Thrones, qui se tourne là-bas en partie. Donc, ils sont hyper rigides, beaucoup plus rigides que les Français, parce qu'ils ont des méthodes américaines. Donc, dès qu'il commençait, par exemple, à pleuvoir 3 gouttes, eh ben, ils commençaient à remballer la grue, à remballer les caméras, à dégager le plateau. Ils disaient, non, mais en fait, nous, on est Français, on continue à tourner, c'est pas grave, il y a 3 gouttes, ça se voit pas à l'image, les comédiens sont dans l'eau, show must go on. Et en fait, les Croates sont très rigides. Ils ont été, par ailleurs, super, parce que ils sont très bien formés, parce que justement, ils bossent avec des Américains. Mais, nous, on est Français, donc forcément, on a ce côté, parfois, un peu plus bout de ficelle et surtout un peu plus à entraver les règles, d'autant plus qu'on est des crevettes et les crevettes aiment bien entraver les règles.
Et on était en début de tournage, ce qui était aussi un bon bordel.
C'est en fait une mise en bouche.
Non, mais le plus dur, c'est qu'en fait, on a commencé le film par les scènes en Croatie. Et alors que dans le film, c'est les dernières séquences. Et c'est les séquences les plus difficiles, puisque c'est les séquences de Gay Games, où il y a énormément de figurations, énormément de matchs de water polo. Pour les comédiens, c'est épuisant. Moi, c'est mon premier film. Maxime Govar, c'est son troisième. Et on pouvait pas communiquer parce que le plateau de tournage était très grand, avec une piscine très profonde, avec les comédiens qui ont des casques, qui nous entendent pas. Et donc, c'était très, très difficile. Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Vous nous entendiez? Si, parce qu'on hurlait, on avait un mégaphone et on leur hurlait dessus. Des jumps, des sauts, des stops, des go! Enfin, c'était hystérique. En plus, on a eu un orage qui a bloqué le tournage pendant 3 heures, où toute l'eau de la mer s'est déversée sur la piscine. Et là, les comédiens, il y en a un, David Bayot, qui s'est déchiré l'épaule. Les comédiens étaient en larmes. Les Croates nous prenaient pour des fou.
On a fait un mini Apocalypse Now en Croatie.
C'était Apocalypse Now et là on voit dans le regard des comédiens qui se disent oh, c'est 2 mois de tournage, ça va être très très long, ces 2 réalisateurs sont complètement fous, on va jamais aller au bout de ce truc, pourquoi on a accepté de faire ce film?
Et on sortait de 3 mois d'entraînement de water polo rincé pour le début de tournage, c'est ça qu'il faut pas oublier. On a commencé ce tournage avec 2-3 mois de water polo dans les pattes, mais c'est ce qui a permis aussi de créer cette unité. Sans ça, ça aurait été peut-être plus compliqué, ouais, sans doute plus compliqué.
En fait, je crois qu'au final, cette contrainte a permis à ce que les comédiens, dans l'adversité, deviennent amis, en fait.
En tout cas, ça vous a mis dans le bain direct, si je peux faire ce jeu de mots. Allez, dans un instant, c'est Nicolas Gobe et Alban Lenoir qui nous rejoignent. Dans Chut, on écoute la télé, on écoute tout de suite la bande-annonce des crevettes pailletées. Merci infiniment tous les deux, Michael Abitboul et Cédric Le Gallo, d'avoir été avec nous. On vous embrasse. Merci.
Bisous.
Vous avez rencontré notre nouveau coach?
Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie.
Bon, allez, vas-y, lâche-moi occuper des toits, arrête ta caméra.
Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission au sein d'une association sportive homosexuelle.
On va vous décortiquer, on est les crevettes pailletées.
Avant de les conduire en Croatie au Gay Games.
C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing?
Le nettoyage à sec.
Pourquoi vous mettez vos bites à l'air?
Remets ton slip!
Vous en avez rien à foutre de rien, en fait.
Alors si vous supportez plus, on n'est pas obligé d'y aller, d'accord?
Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe.
Une belle bande de mecs qui traverse la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs.
Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes.
Welcome to the Gay Games!
que je pense qu'il y en a qui ont pas la chance d'être pédés.
Et non, vous avez trouvé ça comment?
Pour la crevette, le meilleur c'est la queue. Et puis avec des paillettes, c'est encore mieux.
Allez, l'équipe des crevettes pailletées est avec nous dans un instant. Hein. Nous recevrons Maxime Govard et les deux Romains, Romain Lancry et Romain Brault. Merci à tous les deux encore une fois d'être venus. Vous avez cédé la place et bien à vos crevettes pailletées, hein, au reste du groupe. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt. Salut. Merci.
Bouge pas. Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Voilà, merci Cédric Le Gallo d'avoir été avec nous. On va continuer à parler de ces crevettes pailletées. Évidemment avec Nicolas Gobbe qui nous rejoint, le héros de ce film, alias Mathias Le Golf. Le héros ou l'anti-héros? On va en parler dans un instant. Bonjour Nicolas.
Salut, salut à tous.
Merci d'être avec nous. Et un des membres de cette équipe des crevettes pailletées, Alban Lenoir, qui est avec nous, qui joue le rôle de Jean. Salut Alban.
Bonjour, bonjour à tous.
Je suis très heureux de vous retrouver tous les deux. Alors Mathias Le Golf, on va en parler puisque le film, on vient de planter le décor avec Cédric, mais voilà, le film démarre par cette histoire. Comment tu le définirais, toi, pour commencer?
C'est un sportif de haut niveau qui n'a pour but que de gagner les derniers mondiaux de sa carrière. Il va déraper lors d'une interview en disant un propos homophobe limite presque malgré lui. Et il est sanctionné par la Fédé pour aller entraîner une équipe homosexuelle pour les de waterpolo pour les prochains BI Games.
Il va être sanctionné du coup pour ses propos.
Il est sanctionné et le personnage en fait c'est un type complètement étranger à ce milieu qui va malgré lui les accepter et se faire accepter. Et donc on est dans l'acceptation pure et dure. C'est le film et c'est le rôle qui en découle, c'est ça. Il fait office de public en fait. Il les regarde et il apprend à les aimer au fur et à mesure. Voilà. Et Mathias Le Golf, c'est le public en fait.
Exactement. Pour toi Alban, le rôle de Jean, c'est le rôle de l'ancien entraîneur hein, en quelque sorte. Enfin l'ancien capitaine on peut dire hein, de l'équipe qui a dû s'absenter parce qu'il était malade pour soigner un cancer. Hein, ça on le voit dès le début du film. Comment t'as réagi quand on t'a proposé ce rôle de Jean Alban?
Ben, j'étais ravi. Après ça a été plus un petit défi de décrocher ce rôle parce qu'on a tous fait des essais. Ça n'a pas été une proposition comme parfois on peut en avoir sur des scénarios. Et j'étais ravi, moi qui ai eu l'occasion de travailler quelques années dans le milieu gay, dans le Marais, et qui connaît bien cette communauté, j'avais un désir, on m'avait proposé plusieurs fois des rôles d'homo, et il n'y avait jamais ce... Enfin voilà, ça ressemblait pas moi à ce que j'avais pu connaître ou vécu dans cette période-là, et à la lecture de scénario, même s'il y a un parti pris de ce côté un peu extravagant, constamment, de plaisir de vivre, et sans en faire une généralité de la communauté, ça a été un choix de le traiter comme ça, et moi, pour moi, le rôle de Jean était en partie tout ce que je recherchais ou de ce que je voulais raconter. Donc voilà, j'étais ravi de décrocher ce rôle.
Alors, il est vrai que dans cette équipe, chaque membre a des caractères bien différents. Il y en a qui exposent beaucoup plus que d'autres, hein, effectivement, le fait d'être gay. Mais on a vraiment des caractères bien trempés et on passe du rire aux larmes pendant tout le long du film. Et c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé en le voyant justement aussi. J'ai eu la chance de le voir avant les autres. Nicolas, première projection. Quand tu l'as vu la première fois, le film, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que t'as ressenti?
Mais c'est toujours très délicat parce que, enfin,
très délicat. Tu fais tout pour suivre l'histoire, mais t'as les souvenirs du tournage qui reviennent. Tu regardes si t'es pas trop, si t'as fait le taf. Tu regardes tous les copains. Tu regardes si ça marche, quoi. Et après, c'est plus en deuxième temps, la deuxième lecture que tu peux profiter et visionner vraiment le film et dire voilà, te laisser embarquer par le film.
Alors, deuxième projection. Comment ça s'est passé, Nicolas?
Mais moi, je suis franchement là, je sors serein, d'autant plus que l'accueil a été incroyable. Moi, j'avais jamais connu ça. J'ai jamais connu un accueil comme ça, donc j'étais hyper content de vivre ça. Je suis très fier qu'on ait eu cet accueil-là. Et donc, du coup, deuxième visionnage, je suis confiant. Je trouve qu'on a fait un beau travail. Je trouve que c'est un film honnête qui surfe sur de jolis sentiments sans être consensuel. Mais vraiment, je pense que c'est beau, c'est triste, c'est émouvant,
On rit aussi beaucoup.
On rit beaucoup. Voilà, c'est...
Et on part en voyage avec ces crevettes pailletées. Ouais, moi, je dis, c'est vrai, hein, on part en voyage avec eux pour aller effectivement en Croatie pour ces Gay Games et vous embarquez le spectateur littéralement avec vous pour cette aventure hors du commun. Dernière question pour vous deux. Alors, il y a eu beaucoup de tournages dans l'eau. Alors comment vous débrouillez maintenant sur 400 mètres nage libre?
En tout cas je nageais déjà pas trop mal avant, donc et vu qu'on est quand même très sportif, on fait beaucoup de sport toute l'année, se faire semblant de faire quelque chose c'est facile. Après pour l'entraînement de water polo, ce que eux ont beaucoup fait, plus que moi d'ailleurs, ça c'est vraiment très 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 compliqué. Je pense que c'est sans conteste un des sports les plus difficiles, quoi, les plus compliqués. D'ailleurs personne n'a compris vraiment les règles au final.
On va le refaire après surtout.
Mais non, c'est très 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 éreintant. Et donc d'avoir tourné toutes ces scènes refaire, ils avaient beau nous jeter des bouées entre les prises, voilà, c'était chaud, mais ça nous a mis dedans. Même si on n'est pas des grands professionnels, je pense que elles ont le mérite d'être, toutes les scènes de water polo ont le mérite d'être bien, de nous emporter, quoi.
Ça marche. Ça tombait bien qu'on joue une équipe pas très bonne.
Voilà.
C'était parfait.
Voilà. Bon, t'as passé beaucoup de temps dans l'eau toi aussi.
Ouais, j'ai passé trop de temps dans l'eau. Non mais moi il y a deux trucs que j'aime pas, c'est l'eau et le froid. Et donc du coup j'étais servi. Mais tu passes outre tout ça quand t'as cette histoire à raconter, ce groupe avec toi, cette bienveillance envers chaque comédien où vraiment on s'est tous portés, quoi. Et ça se ressent à l'image en plus, donc c'est un plaisir. C'est un plaisir.
Merci à tous les deux d'être passés nous voir. On va réécouter un petit extrait, puisque les crevettes pailletées, ça sort pour ce 8 mai. Profitez de ce jour férié pour aller découvrir ce très beau film au cinéma. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
3, 4, on vous décortique, on est les crevettes pailletées.
Il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois.
Vous allez faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer.
Faites-toi la rétropédale.
Avant de les conduire en Croatie au Gay Games.
C'est quoi les Gay Games?
C'est comme les JO.
En moins chiant, avec que des beaux mecs.
Allez, entraînement surprise.
Olé.
C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing, Fred?
Le nettoyage à sec.
Ah, on perd pas contre les tapettes et cahiers, ok?
En lesbienne, y'a Yen.
Et putain, mais je comprends plus rien, on a le droit de dire des trucs comme ça?
Nous, oui, mais toi, non.
Mais arrêtez de passer trop.
Les amis gays, j'en ai plein. Ce sont des gens brillants et extrêmement raffinés.
Pourquoi vous mettez votre bite à l'air?
Remets ton slip. Ton niquet.
Vous en avez rien à foutre de rien, en fait.
Alors si vous supportez plus, on n'est pas obligé d'y aller, d'accord?
Eux aussi, tu voulais les abandonner? Même ta propre fille, bientôt elle ne voudra plus te voir.
Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe.
Moi, j'ai pas le temps pour ce cirque.
Il y a sanction, Mathias.
Une belle bande de mecs qui traversent la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs.
Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes.
Quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être pédés.
Et le nom, vous avez trouvé ça comment?
Dans la crevette, le meilleur c'est la queue. Et puis avec des paillettes, c'est encore mieux.
D'accord.
Allez, on va continuer à parler des crevettes pailletées. Hein. Vous savez, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça sort mercredi dans les salles et on est très heureux de continuer à en parler avec la suite de notre équipe. C'est Maxime Govard qui nous rejoint, un des co-réalisateurs. Bonjour Maxime.
Bonjour, enchanté.
Et deux Romains qui sont avec nous, puisqu'on a Romain Brou qui est avec nous. Bonjour Romain.
Bonjour Alain.
Nous avons également notre ami Romain Lancry, un habitué de l'émission. Salut Romain.
Salut Alain.
Merci d'être avec nous tous les trois. Alors on a planté un petit peu le décor hein, avec Cédric qui nous a raconté un peu l'histoire justement de ces crevettes pailletées avec Nicolas Albon. Première question, j'avais envie de te poser à toi Maxime. Qu'est-ce qui t'a fait t'embarquer avec Cédric dans cette aventure?
Ah bah quand il m'a parlé de sa vraie équipe, les crevettes pailletées, donc qui existe vraiment, j'ai trouvé ça fascinant, parce que le sport normalement c'est toujours une quête de performance, il y a quelque chose d'assez grave là-dedans, on veut toujours être les meilleurs, et avoir une équipe dont le seul plaisir c'est de vivre des aventures improbables, de se déguiser, de faire la fête, de prendre tout avec une espèce de frivolité, de légèreté incroyable, je me suis dit qu'il y avait un sujet qui était formidable et qui me permettait moi d'exprimer des thèmes qui me sont chers, qui est de prendre peut-être la vie avec un peu moins de gravité et puis de se dire que de toute façon c'est une aventure, quoi.
C'est un peu un ascenseur émotionnel, hein. Je sais pas si les deux Romains sont d'accord avec moi, ce film. On peut passer facilement du rire aux larmes. Romain Brou, comment t'as vécu déjà ce tournage à toi?
Ah, pour moi, ce tournage, c'était une merveille. Déjà, j'ai pu reprendre le goût à l'eau, parce que j'aime énormément nager et le redécouvrir à travers le sport du water polo. C'est vrai que les répétitions et les préparations ont été très intenses. On s'y est pris quand même 6 mois à l'avance. Donc c'est vrai que pour nous le tournage a quand même duré très 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 longtemps. Et c'était merveilleux, ça nous a permis de connecter avec nous tous. Et quand tu parlais d'émotion, évidemment, c'est quelque chose qu'on a réalisé quand on a vu le film pour la première fois. Parce que quand on tourne, on s'en rend pas compte, on fait cette scène-là, après on vient sur l'autre, on perd complètement le rythme du film. Et quand on redécouvre le film, mais j'étais comme un gosse et j'ai vraiment vu mes vacances redéfiler. C'était très beau, il y avait une très très belle nostalgie et j'étais tout le temps en train de transpirer, mon cœur battait. Je me revoyais avec toutes ces belles expériences parce qu'on a quand même beaucoup voyagé, on a vécu des moments très très forts. On parle d'une aventure, ça l'a été pour nous, c'est une aventure sportive, une aventure amicale. Il y a des contacts et des relations qui se sont créées, c'était très très beau. Et pour ça, l'expression d'ascenseur émotionnel est parfaite.
Romain, toi, Lancry, comment tu as vécu ce tournage aussi?
Bah écoute, je vais pas en dire beaucoup plus que Romain, ça a été une vraie aventure pour nous tous. On s'est tous rencontrés en amont du tournage, ça a permis de souder un groupe et qui s'est pas créé sur le tournage du coup, mais qui a continué à vivre sur le tournage. Et du coup, ça donne cet effet-là à l'écran, j'ai l'impression qu'on se connaît bien, qu'on est une vraie bande de potes. Et ce que j'aimerais que le public en pense au final, c'est j'aimerais faire partie de cette bande de potes. Voilà, moi je vois ce film avant tout, donc c'est évidemment un film sur la communauté gay, mais c'est avant tout un film sur une histoire d'amitié en fait. Voilà.
Exactement, et que tout le monde doit aller voir. Voilà, c'est un peu une ode justement à la liberté, à la différence. Maxime, comment on fait pour les tenir tous? Parce que en tant que co-réalisateur, évidemment, la tâche a dû être quand même compliquée puisque ils étaient quasiment tous à l'écran tout le temps. Alors comment vous êtes répartis les tâches avec Cédric?
On n'était pas trop de deux pour s'occuper de cette classe verte un peu particulière. C'était un esprit de groupe formidable, on voulait qu'ils vivent en groupe. Ils ont souffert avec nous, parfois on s'est disputé, parfois on s'est aimé, enfin c'était vraiment formidable. Et puis après on les a dirigés un peu comme on dirige des enfants en fait. C'est-à-dire qu'ils offrent tellement de moments d'authenticité, de complicité, des trucs qui sont pas totalement prévus dans le script parce qu'il y a cette complicité, parce qu'ils sont un peu tous fous. Que voilà, on alterne entre être le meilleur ami et puis de temps en temps un peu père fouettard, mais c'est
le tyran
exactement. Mais non, c'était un tournage particulièrement exigeant. Ils sont dans l'eau pendant très longtemps et on sait que le cinéma, tant que la prise n'est pas dans la boîte, tant pis si fait froid, tant pis si c'est dur. On est obligé, c'est notre rôle de réalisateur d'avoir le résultat et de passer parfois un petit peu outre, puis ensuite d'avoir envie de les prendre dans nos bras et puis d'être tellement content quand on voit ensuite le montage et les rushs. Donc ouais, c'était comme tourner avec des enfants en fait.
Alors on va parler un petit peu plus de vos personnages. À toi Romain Brault, le personnage de Fred, comment tu le définirais?
Eh bien Fred, c'est un homme qui est né homme dans l'espoir d'un jour devenir femme. Et je pense que le fait que l'équipe de waterpolo se dispatche pendant un certain moment, je pense que c'est, on parle de 4 ans. Pendant 4 ans l'équipe de waterpolo n'existe plus et elle se recrée et Fred revient avec ce changement de sexe où elle peut enfin être elle-même. Elle arrive complètement sûre d'elle, affirmée, assumée, sublime. Ça surprend tout le monde. Et en même temps, elle est très bien accueillie. Sauf par, vous verrez dans le film. Mais évidemment, c'est ce qui est très beau. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé défendre, c'est que Fred, on voit bien dans le film, parfois, elle a un peu une repousse de barbe. Ou alors, on sent qu'il n'y a pas une opération. On voit des seins, mais est-ce que c'est des prothèses? Est-ce qu'elle est sous hormones? Il y a vraiment, c'est un baby trans et c'est très beau. Alors, elle est vraiment dans cette mentalité-là. Elle s'assume en tant que femme. Et on s'en fout, on n'est pas là pour décrire à quel point elle est trans ou elle n'est pas trans. C'est une femme qui se présente devant vous et ça qui est beau.
Question que justement je n'ai pas posée à Cédric tout à l'heure. Il nous a dit qu'il faisait partie de cette équipe des crevettes pailletées. Mais est-ce qu'on a un ou une Fred dans la vraie équipe des crevettes pailletées? Et si oui, est-ce que tu as pu le ou la rencontrer?
J'ai rencontré des équipes de waterpolo LGBT avec des trans qui jouaient dans les équipes. On a rencontré beaucoup d'équipes pendant le tournage et c'est vrai que j'ai eu de très belles histoires et de très beaux échos concernant la communauté trans dans le sport. Dans l'équipe des crevettes pailletées parisiennes, il n'y a pas de femmes transsexuelles.
Alors à toi Romain, on va parler du personnage de Damien. Comment tu le définirais toi Damien, à part chauffeur de bus?
Damien, c'est le petit lunaire du groupe. C'est celui qui a toujours 2 secondes de retard ou 2 secondes d'avance, mais qui est jamais dans le bon tempo.
Il y a un petit peu de toi dedans?
Ouais.
Complètement, moi qui te connais bien.
Il y en a beaucoup. Forcément, on amène ce qu'on a et ce qu'on est pour créer un personnage, on part de là. Hein. Et oui, donc je suis ce personnage qui est un peu à côté de la plaque, qui revient de loin en fait, qui a été abandonné à la naissance, on l'apprend un peu après dans le film, et qui a trouvé en cette bande de crevettes une vraie bande d'amis et plus que ça, en fait, une vraie famille. Voilà. Il a été adopté par eux un peu.
Exactement. Ça faisait 8 ans qu'il fait partie des crevettes, hein, ton personnage, si j'ai bien retenu dans le film.
Exactement. Exactement, depuis le début en fait, où il les a rencontrés, il s'est dit ok, on y va et on se lance dans l'aventure.
Quel a été pour toi le moment de tournage le plus fort ?
Le moment de tournage le plus fort, en fait il y en a eu tellement, c'est très compliqué cette question. Il y a eu un moment assez intense, c'était au tout début en Croatie, on était dans l'eau et on est resté des heures et des heures dans l'eau. Et la nuit commençait à tomber, les orages éclataient et ça a été compliqué de tourner. Et pour nous ça a été un moment fort en émotion, très très chargé en émotion de comment est-ce qu'on tient le cap, comment est-ce qu'on garde la route là-dessus et comment on continue à jouer avec ce froid dans la flotte, la fatigue qui commence à arriver, voilà. Donc ça c'était un moment assez fort, c'est pas le plus heureux du tournage mais ça a été un moment assez fort. Après il y en a eu d'autres, des dizaines de moments beaucoup plus heureux et beaucoup plus drôles et sympas à vivre, mais il y en a tellement que je peux même pas les énumérer quoi.
Alors le mot de la fin, c'est pour toi Maxime, ce mot de la fin, comment tu te sens à 2 jours de la sortie du film ?
Je suis hyper heureux parce que j'aime d'amour le film et j'aime d'amour les gens avec qui je l'ai fait. Donc voilà, j'ai juste envie que j'espère que tous les spectateurs vont retrouver ça. Mais l'aventure était magnifique.
Moi je vous encourage tous à aller voir Les Crevettes Pailletées, ça sort mercredi dans les salles. Je vais vous faire un petit cadeau, on va terminer avec la chanson d'Eddie de Preto, Kid. Elle prend la suite d'une scène assez forte dans le film, la scène de fin, qu'on va pas dévoiler évidemment là. Mais en tout cas, voilà, on va se l'écouter maintenant. Je vous embrasse tous les trois.
Bisous, merci Alain.
Merci Alain, au revoir.
Merci Alain, à bientôt.
Tu seras viril mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va démarrer notre spécial tout de suite de l'enfant que je n'attendais pas. C'est le téléfilm événement à ne pas rater, mercredi sur France 2. Alors, on va recevoir toute une partie de l'équipe pour parler de ce sujet sensible. On va démarrer avec le réalisateur qui est avec nous. Bonjour Bruno Garcia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Clarisse Lonibot qui est avec nous. Bonjour Clarisse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Clarisse, qui joue le rôle de Myriam, la meilleure amie de l'héroïne, incarnée par Alix Poisson et Bruno Solo, qui vont nous rejoindre d'ici quelques instants. En quelques mots, on va déjà planter un petit peu le décor avec toi, Bruno, en tant que réalisateur. Une aventure comme ça, un sujet comme ça, ça se refuse pas ?
Non, ça se refuse pas. Non, on peut pas refuser ce genre de sujet, on peut pas refuser un scénario si bien écrit par Caroline et Eric Dupoté. On ne peut pas refuser non plus ce sujet-là, parce que je trouve qu'il y a un vrai message et il y a une vraie transmission d'informations comme il y en a eu d'autres sur le harcèlement, sur plein d'autres sujets qui font notre quotidien malheureusement, parce que ce sont des sujets, des vrais fléaux quand même, quelque part. En ce qui concerne le déni de grossesse, je ne sais pas si on peut appeler ça un fléau, en tout cas c'est un vrai sujet à prendre en considération. Voilà, ces femmes qui font un déni de grossesse partiel ou total et qui peuvent être justement victimes d'elles-mêmes, de leurs propres gestes, quand il y a tentative d'homicide, ce qui est le cas de notre film, avec un bébé déposé dans une poubelle de façon inconsciente, on va dire. Et voilà, donc non, pour répondre à la question, clairement, non, je ne pouvais pas refuser ce film et le laisser passer. Ça, c'était impossible.
Alors, le sujet est fort, hein. On va bien sûr en parler avec, avec Alix et Bruno aussi dans quelques instants. Mais Clarisse, déjà, la première chose que j'ai envie de te demander, quand toi, tu as lu le scénario et le personnage de Myriam, comment tu as réagi aussi en arrivant sur un sujet et censé, en plus, en tant qu'avocate, hein, défendre ce sujet alors que le personnage est enceinte lui-même?
Eh ben, c'était hyper intéressant. Quand j'ai lu, je me suis dit que il y avait pas mal de choses à défendre pour ce rôle-là. Et c'était une vraie opportunité pour moi parce que c'est la première fois que j'ai un rôle aussi important. Et du coup, j'étais emballée. Voilà.
Je me doute, parce que franchement, le sujet était très très bien traité. Parce que ça aussi, c'est un travail de réalisation aussi. D'aller vraiment dans des endroits où on veut aller, mais sans forcément vouloir choquer non plus. Mais tout simplement expliquer que le déni de grossesse, ces femmes-là, ne méritent pas forcément d'être traitées comme des criminels, mais plutôt comme des victimes.
Tout à fait, comme je vous le disais, victime d'elle-même, de par le geste que fait en l'occurrence Johanna dans notre film. Absolument, elles sont traitées comme des criminels plutôt que des victimes. C'est exactement ce que disait Bruno tout à l'heure sur scène en parlant de l'affaire Courgeot, le journal intitulé « Le monstre » en parlant de Véronique Courgeot. C'est vrai que c'est difficile aussi de pardonner ce geste-là à une femme parce que c'est quelque part impardonnable, ça on le sait. Et d'ailleurs, notre personnage, Johanna, dans notre histoire, est prête à passer les étapes qu'elle doit passer parce que, victime d'elle-même, justement, elle sait qu'elle doit passer par la case prison et elle sait qu'elle doit passer par la case bureau du juge et elle sait qu'elle doit passer par la case procès. Ça, c'est inévitable. Voilà. Après, tout dépend un petit peu, peut-être un petit peu de la personne, quoi. Et puis aussi de...
Les histoires de chacune, pour le
ouais,
coup.
C'est ça. Je pense que le schéma n'est pas un schéma, c'est pas quelque chose de mathématique. C'est chacun son histoire. Nous, on parle aussi effectivement, cette obsession du travail. On parle de son histoire personnelle avec son père, avec sa mère. Enfin, je peux difficilement me prononcer moi parce que je ne suis pas assez connaisseur sur le sujet, mais dans le sens où, il paraît qu'un déni de grossesse, en gros, c'est pas par hasard. Voilà. Il paraît que, c'est pas par hasard. Après, c'est très complexe, hein. J'irais savoir pourquoi. Parce que j'irais savoir où on a appuyé à un moment donné sur un bouton dans sa vie qui fait qu'il y aura un déni de grossesse. Je suis pas sûr qu'on connaisse ce bouton-là. En revanche, il paraît qu'il y a forcément des antécédents. Voilà. De psychologiques, ou autres. Mais, c'est très complexe. C'est très, très complexe.
Comment vous êtes préparés, tous les deux? Alors, Clarisse, toi, est-ce que tu as rencontré des avocates qui ont défendu des femmes dans cette situation-là, par exemple? Et toi, Bruno, est-ce que tu as rencontré des femmes dans cette situation qui t'ont raconté leur histoire au niveau réalisation?
Moi, j'ai pas rencontré d'avocates qui ont défendu ces cas-là. En revanche, j'ai des amies avocates, donc j'en ai parlé avec elles. Et c'est vrai qu'après, chaque cas est unique et différent. Et puis surtout, tout dépend de ce qu'a pu faire la femme, si le bébé a été tué ou pas. Et donc, moi, j'en ai parlé avec mes amies qui sont avocates, mais pas de ce sujet-là en particulier.
Toi, Bruno?
Alors, pour ma part, moi, je me suis rapproché d'associations, justement, de femmes, un petit peu comme dans notre film. C'est difficile, l'accès est difficile. Et puis, quand ça touche à l'intime comme ça, de poser des questions, quand on va réaliser un film, c'est possible, mais c'est un peu difficile. En revanche, ce que j'ai beaucoup fait, c'est de lire des choses, de regarder des témoignages de médecins gynécologues sur le sujet. Donc, voilà. Donc, je me suis beaucoup, surtout, en fait, plus que l'intrusion dans la vie d'autrui, je me suis beaucoup plus documenté en fait via Internet et via des médecins, voilà, ce genre de choses, quoi.
Le but, c'est vraiment que ce téléfilm aujourd'hui éveille les consciences, voilà, puisse aussi peut-être apporter des réponses aux questions qu'on peut tous se poser. Moi-même, en tant que spectateur, j'ai appris plein de choses, en tout cas dans ce film. Donc voilà, vraiment bravo à Jean-Manuel Dupont, hein, en tant que producteur aussi, et tous ceux qui ont participé à ce film. On va recevoir Alix et Bruno, hein, dans un tout petit instant. Clarisse, comédienne, quels sont tes projets pour 2019? Où c'est qu'on va te voir ailleurs que dans ce téléfilm?
Alors, dans un épisode de Candice Renoir et dans un long métrage qui s'appelle Décapitalisation, je ne sais pas encore si quand il sortira, où je joue le rôle d'Inès, une jeune activiste. Voilà.
Très bien. Et pour toi, Bruno, au niveau réalisation, qu'est-ce qui t'attend en 2019?
Alors, pour moi, je vais réaliser un épisode d'une série qui s'appelle Cassandre avec Gwendoline Hamon, voilà, que je vais tourner là prochainement et qui sera terminé courant 2019.
La prochaine saison de Cassandre.
Voilà, exactement.
Qui cartonne d'ailleurs, hein, puisque la dernière saison, ça a été plus de 4 millions de téléspectateurs. C'est incroyable le succès. Hein.
Ouais, ça marche très très bien. Ouais, c'est super.
Eh bien, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. On va écouter un petit extrait, L'enfant que je n'attendais pas. C'est mercredi sur France 2. Et juste après, on revient avec Bruno Solo et Alix Poisson. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et moi, je fais... Toi, t'as marqué des points. T'es passé de chouette papa à super papa magique qui m'organise des anniversaires de folie.
C'est moi.
Merci d'avoir tout géré. Hein.
Mais j'ai pas le choix, je vis avec une working girl.
Aïe. Oh, je sais pas ce que j'ai depuis deux jours, j'ai mal partout.
Toujours disponible. Le kiné à domicile.
Ah, je veux bien.
Alors, levez le pied un peu, hein. Je propose petite escapade en amoureux.
Mmh, ça serait super, mais je vois pas bien quand, là.
Je propose le week-end prochain, on laisse Camille à ma mère et on file tous les deux.
Oui, j'adorerais, mais ça va pas être le bon timing, là.
Allez, on continue notre spécial L'Enfant que je n'attendais pas. Ça revient dans un instant. Bruno Solo et Alix Poisson viennent de s'installer à notre côté. Merci d'être là, les amis. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
On revient dans 3 minutes, alors ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. On est très heureux eh bien, d'accueillir hein, la suite, évidemment, de notre spécial L'Enfant que je n'attendais pas, le film à ne pas rater mercredi sur France 2. Alors, on a évidemment l'héroïne, celle qui joue le rôle de Johanna, Alix Poisson, qui est avec nous, qui fait son retour dans l'émission. Bonjour, Alix.
Mais bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de te recevoir à nouveau. Et Bruno Solo, également, qui revient dans Chut, on écoute la télé. Bonjour, Bruno, qui joue le rôle de Laurent.
Exactement. Et j'ai l'impression d'être avec toi, mais tout le temps. C'est un éternel recommencement. Tu sais, le jour sans fin. C'est chaque année, tu sais, quand tu fais Luchon, c'est comme les... bonjour les marmottes et tout, voilà. Non, mais j'adore.
C'est ça, j'adore. Parce qu'à chaque fois qu'on se croise, la première chose qu'il demande, Bruno, est quand c'est qu'on se voit. C'est toujours agréable, voilà, d'avoir des comédiens comme vous deux, et surtout en plus sur un sujet, voilà, aussi sensible. C'est ce qu'on disait avec Bruno et Clarisse il y a un instant. Moi, ce que j'ai vraiment l'impression, Alix, en voyant ce film, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus ces femmes forcément grâce à un film comme ça, comme des criminels, mais plutôt justement comme des victimes. Et comment toi, tu t'es préparé justement à ce rôle de Johanna, Alix? Est-ce que tu as pu rencontrer des personnes victimes du déni de grossesse?
Ben, en fait, j'ai choisi de ne pas rencontrer, parce que j'avais déjà rencontré beaucoup de gens pour le film sur l'affaire Courgeot, et il fallait parce que le personnage, Véronique Courgeot, elle savait ce que c'était un déni de grossesse, on lui avait dit que c'est ce qui lui était arrivé, etc. Donc elle savait, même si elle le comprenait pas forcément. Alors que là, Johanna, en fait, c'est juste quelqu'un qui est sidéré, qui ne sait pas ce qui lui arrive, et le ciel lui tombe sur la tête. Donc, du coup, c'était assez bizarre pour moi, parce que je prépare toujours d'habitude, et là je me suis dit, si je prépare trop, si je lis trop de trucs, si je rencontre trop de gens, ça va devenir un truc hyper cérébral et je ne vais pas être aussi disponible aux situations sur le moment. Donc du coup, en fait, je ne me suis fiée que au scénario là.
En tout cas, je peux vous dire que Alix va vous mettre les poils. Moi, je vous le dis, mercredi. Bruno, alors toi, tu joues Laurent, un mari complètement dévasté par la nouvelle, qui comprend pas ce qui arrive, ce qui lui arrive aussi, ce qui arrive à sa femme dans un premier temps. Là, c'est pareil. Comment tu t'es préparé à ce rôle, Bruno?
Ouais, la seule différence entre le personnage de mon épouse et de moi, c'est que moi, je le vis pas dans ma chair. Mais autrement, le parcours de sidération, d'incompréhension, de reconquête du rationnel, parce que là tout d'un coup on est dans l'irrationnel le plus absolu, c'est le même parcours, sauf qu'elle a souffert dans sa chair, et en plus on l'accuse. Moi, on ne m'accuse de rien, mais c'est ça que, et là effectivement elle a raison, Alix, il n'y a pas nécessairement besoin pour ce genre de personnage, à mon avis, je suis d'accord avec elle, de le préparer trop, parce que justement il ne faut pas le psychologiser, il ne faut pas se servir de l'expérience d'un autre homme qui aurait pu vivre ça, parce que en fait, c'est assez simple d'imaginer dans quel état d'incompréhension et de sidération on peut être. Donc, et puis, il y a des scénarios qui nécessitent. Tu dis, je vais aller faire un peu de documentation, je vais aller un peu me renseigner, parce que il y a des zones d'imprécision ou de paresse. C'était pas le cas pour le scénario. Je trouvais que le scénario était très intelligemment écrit. Il n'y avait plus qu'à se servir. Il y avait tout le matériau pour pouvoir construire avec la plus grande sincérité nos personnages. Donc moi non plus, j'ai pas eu nécessairement envie d'aller rencontrer. Je pense pas qu'il faille nécessairement rencontrer des victimes ou des bourreaux pour pouvoir jouer des victimes ou des bourreaux. Là, en l'occurrence, ce sont des victimes. Mais voilà, je pense que c'est pas qu'il faille pour ce film-là. Il fallait qu'on soit dans l'insincérité la plus totale, et le scénario nous donnait cette occasion-là.
Alix, c'est la première fois, il a été projeté hein, en avant-première au festival de Luchon, la première fois que tu as pu le voir avec des gens dans la salle, les retours, comment t'as réagi la première fois que tu l'as vu monter le film?
Là, ce qui était très troublant, c'est que effectivement c'était la première fois qu'on le voyait avec du public. Les gens ont eu la réaction que n'importe qui peut avoir face à un déni de grossesse. C'est-à-dire qu'on a vraiment entendu les gens, au début du film, être choqués, dire « non mais c'est pas possible, enfin, ne pas aimer cette femme », que je comprends, parce qu'au début on n'est pas forcément en empathie avec elle, ou vraiment être totalement incrédule. Il y avait une dame à côté de moi qui arrêtait pas de dire « enfin c'est impossible, mais enfin c'est impossible !» Et qui après, elle, faisait tout le chemin que font ces personnages de qu'est-ce qui m'est arrivé ou qu'est-ce qui lui est arrivé, et qui peu à peu comprenait que oui, c'est possible, et ça n'en fait pas un monstre ou quelqu'un proche de la folie, pas du tout. Et à la fin, les gens étaient hyper émus et on a vu des gens pleurer. Et donc il y a eu toute une courbe d'émotions qui était assez dingue en fait à voir de là où on était, du milieu de la salle. C'était très touchant. C'était ce qu'on recherchait, mais tu sais jamais si ça va marcher quoi.
Ce qui est assez remarquable avec ce film, c'est que imaginons un film sur l'IVG par exemple, on peut tout de suite, il y a des gens qui sont fondamentalement contre l'IVG, ce genre de sujet là. Si un film est fait là-dessus, on peut imaginer qu'il n'y a pas un réalisateur ou un producteur de Nine Lyon qui va faire un film contre l'IVG, ou alors il le fait mais alors dans des circuits parallèles, mais on peut pas le faire sur le service public. Donc le spectateur, s'il est fondamentalement contre l'IVG, il va dire c'est un film militant, c'est un film à charge contre les gens qui sont anti-IVG, etc. Mais sur ce film-là, sur ce sujet-là, franchement, je ne sais pas combien de gens le verront, mais tous les gens qui le verront ne pourront plus jamais ce qu'ils verront. Après, il s'agit d'être prosélyte, d'en faire parler, de fédérer autour de ce film. Mais ils ne pourront plus jamais dire « Ouais, je crois que le film est un petit peu militant, il essaye de nous faire croire que... » Parce que le film, en plus, il est d'une objectivité totale. Il essaye ni de pardonner, ni d'excuser. Il essaye juste de faire comprendre un phénomène qui est incompréhensible lorsqu'on n'en a jamais parlé. Si vous le découvrez pour la première fois, comment avoir... Moi, j'étais préparé parce que l'affaire Courgeot, qui avait joué Alix il y a des années, m'avait totalement bouleversé, fasciné et tout. J'avais été lire de la littérature scientifique autour de cela. Mais après, passer la science, passer l'explication et tout, on ne peut être que pris par cette histoire et totalement en empathie et en accord avec le personnage que joue Alix. Donc, s'il y a un connard
vas-y.
Qui continue à l'issue de ce film de venir me voir et me croiserait, dit ouais, c'est peut-être pas aussi simple et tout, je sais quel genre de mec ce sera. Ce sera un putain de misogyne qui s'imaginera qu'une femme, bien entendu, elle garde ses secrets, qu'elle n'en a pas voulu, etc. Mais misogyne convaincu, c'est un antiféministe, un sexiste de la pire espèce. Et en plus, sans en connaître, une sorte de créationniste qui pense qu'effectivement, un enfant est une opération du Saint-Esprit. Tu sais, autrement, toute personne normalement constituée qui n'est pas une sorte d'idéologue complètement abruti ne peut pas passer à côté de ce sujet. Sur l'IVG, il y a encore des gens à convaincre. Mais sur ce sujet-là, voilà. Donc il aura cette valeur-là. Et pour autant, ça reste un film de cinéma.
Et on va apprendre plein de choses, je peux vous le dire, qu'on ne sait pas forcément sur le déni de grossesse ou qui n'est pas connu du grand public. Quelle a été pour toi la scène la plus forte, Alix, du film, au moment où tu l'as tournée? Est-ce que ça a été la même à l'image, quand tu as vu le film monter?
Il y a eu plein de scènes fortes, hein, parce que quand même c'était...
Il y en a eu un paquet, c'est très dur ce que je te demande, c'est vrai.
Un peu compliqué. La scène où j'ai été le plus surprise, c'est la scène à l'hôpital quand la sage-femme vient me voir et où moi je n'avais pas du tout envisagé comme ça, c'est-à-dire que moi pour moi elle craquait pas Johanna, il y avait un truc beaucoup plus encore en sidération et beaucoup plus atone. Et Bruno Garcia était venu me voir et m'avait dit je pense que c'est le premier moment où elle craque vraiment et où on a accès à elle, et du coup ça m'a complètement déstabilisé et du coup j'ai été obligée de changer mon chemin de pensée et en fait j'ai vraiment craqué, c'est-à-dire qu'il y a eu un truc de je sais pas, il y a un truc qui m'a échappé, donc j'étais vidée à la fin de cette matinée parce qu'on l'a fait un paquet de fois et j'étais assez et bouleversée aussi par ma partenaire qui était pile au bon endroit, qui était hyper concrète, qui était hyper juste, qui était voilà. Et sinon la scène qui m'avait fait le plus peur, où je me disais waouh dur, c'est la scène où on se retrouve au parloir, on cherchait, on trouvait pas tout de suite, on a fait une prise de prise mais on savait qu'on n'était pas exactement au bon endroit et tout ça, et en fait ce qui est marrant c'est qu'on est sorti chacun de son côté parce qu'il fallait qu'on fasse une entrée pour se retrouver dans la cellule, et en fait on se l'est dit après. Moi, j'étais en train de me dire, attends, comment on réagirait dans ces cas-là? Ben, en fait, on ne ferait rien, donc je ne vais rien faire. Et après, on verra ce qui va se passer. Et Bruno, de l'autre côté, se disait pareil.
Je me dis, je vais arriver. Ce qui était écrit, c'est qu'elle me tapait direct. Et je me dis, je vais rien faire. Ça marchait pas. On sentait bien, intrinsèquement, au fond de nous-mêmes, Alix et moi, que c'était pas ça. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont du domaine de l'indicible, voilà. Bon, peu importe. Mais j'étais dehors, je me dis, je vais rien faire. Et en fait, on s'est retrouvés tous les deux à se regarder, à ne rien faire. Et c'était formidable parce que lui, en plus, Bruno Garcia, faut savoir que c'est un réalisateur, mais c'est lui qui cadre. Donc il est au plus près de nous, quoi. Et il filmait, il attendait. Lui aussi ne savait pas ce que nous allions faire ou ne pas faire. Et ça, c'était moment, effectivement, on vit aussi ce métier-là de temps en temps pour ces instants-là. Pas que, mais ces instants-là, on sait que, et d'ailleurs, à l'issue de la séquence, on savait qu'on avait trouvé quelque chose, en tout cas. On savait pas si ça allait plaire, si c'était ça qu'il fallait faire, mais on savait que c'était ça qu'on avait envie de faire, et au même moment, sans se concerter. Ça, c'est, oui, le petit moment de magie, ouais.
Eh bien, beau moment en tout cas, qu'on verra évidemment dans le film « L'enfant que je n'attendais pas ». C'est mercredi sur France 2. N'oubliez pas, en regardant ce film, évidemment, que l'histoire de Johanna que vous verrez, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à votre voisine, ça peut arriver à votre sœur, ça peut arriver voilà, à de la famille, à des cousines. Donc voilà, soyez attentifs aussi à ce genre de choses, puisqu'aujourd'hui, ça touche, je crois que c'est une femme sur 5000 ou une naissance sur 5000. C'est absolument hallucinant le nombre de personnes que ça touche, beaucoup plus que l'on le croit en tout cas. Merci.
On est journaliste d'avoir travaillé par contre en amont son dossier. Nous, on n'est pas nécessairement obligé de le faire parce qu'on crée des personnages qui n'existent pas. Mais un journaliste a le devoir de faire ce que tu viens de faire et tu l'as très bien fait. Bravo.
Et le devoir, c'est de regarder le film, voilà, pour éveiller les consciences. Merci à tous les deux et merci de nous avoir permis d'accéder à cette histoire.
De rien, merci à vous.
Merci. Restez avec nous, madame. Madame, ouvrez les yeux, madame. Attendez, là, elle vient d'accoucher.
Qu'est-ce que vous racontez? Ma femme n'est pas enceinte, vous vous trompez.
Tu me la mets sous le dos.
Va chercher le bouquin.
Madame, où est le bébé? Qu'avez-vous fait du bébé? Madame, restez avec nous, restez éveillée, hein. Madame.
Je vous mets un masque.
Tu fais un tour. Fais un tour de la maison. Il est où le
Allez,
bébé?
Respirez tranquillement.
Papa, qu'est-ce qui se passe?
C'est rien, ma chérie, c'est rien. Viens, viens, on va se recoucher. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, emmenez-la. Allez, monsieur. Parlez, monsieur. Asseyez-vous, la gendarmerie va arriver.
Quoi, la gendarmerie? Pourquoi vous parlez de la gendarmerie?
Mais monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Les gendarmes vont pas tarder, ils vont tout vous expliquer, vous inquiétez pas.
Mais qui j'aime savoir, bordel!
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve donc lundi prochain pour continuer évidemment nos aventures avec beaucoup de surprises, puisque pour le final de Candice Renoir, nous recevrons Yelem Japin qui sera notre invité. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Gary Mileanu qui est à l'affiche du crossover entre la 19h et Section de Recherche qui sera diffusé le 16 mai prochain sur TF1. Et puis ça sera une spéciale également du film Des gens bien, puisque Des gens bien sort un peu partout en France, dans tous les cinémas CGR de notre région. Et donc nous aurons le plaisir de recevoir les deux réalisateurs, Bruno Lopez, Emmanuel Vielli, le producteur également Christophe Hermé, les deux comédiennes principales Anne Lenen et Paloma Lopez, et la marraine du film qui sera notre invitée exceptionnelle Muriel Robin dans Chute on écoute la télé. Un rendez-vous bien évidemment à ne pas manquer lundi prochain.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine, tous les jours à midi sur Brenig FM. D'ici là, eh bien, je vous donne rendez-vous également lundi prochain à 19h pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à tous à l'écoute de nos programmes.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.